VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manirakiza à la présentation de cette édition du mardi 25 mai 2021. Voici d'abord le sommaire. Au Mali, le colonel Assimi Goïta a arrêté et démis le président Bandao et le premier ministre de la transition Mokhtar Ouad en les accusant de sabotage. La ville de Goma dans l'angoisse d'une nouvelle éruption du volcan Nyiragongo. De longues fissures ont fracturé le sol, secoué par des séismes à répétition. C'est la journée de l'Afrique, marquant l'anniversaire de la naissance de l'Organisation de l'Unité Africaine. C'était le 25 mai 1963. Le sommet Biden-Poutine aura lieu le 16 juin à Genève. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord le journal. Au Mali, le président de la transition Bandao et son premier ministre Mokhtar Ouad ont passé la nuit aux mains des militaires du CNP à Kati. Le commandant Baba Cissé, proche du colonel Assimi Goïta, a lu aujourd'hui un communiqué à la radio nationale pour dire les raisons de cette reprise en main.
De par le serment prêté, en même temps que le président de la transition est tenu par l'engagement patriotique pris devant le peuple malien ainsi que devant les forces de défense et de sécurité, le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son premier ministre ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation. En cette circonstance, le vice-président de la transition invite les populations à vaquer librement à leurs occupations et les rassure de l'engagement indéfectible des forces de défense et de sécurité à préserver l'intérêt supérieur du peuple malien, conformément à l'esprit et à la lettre de la charte de transition. Au demeurant, le vice-président de la transition tient à préciser que le processus de transition suivra son cours normal et que les élections prévues se tiendront courant 2022. Je vous remercie.
Un nouveau coup de force au Mali, moins d'un an après le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les médiateurs ont défilé toute la nuit à Kati où la vie a continué son cours normal, comme si de rien n'était. Le point avec la Missa Sangaré sur place à Kati.
Ce matin, à Kati, les citoyens ont continué à circuler normalement malgré une nuit particulièrement angoissante. Les commerces ont ouvert, les transports ne désemplissent pas, les grains d'été se tiennent normalement. Des médiateurs locaux composés de religieux et de personnalités civiles ont apporté leurs bons offices toute la nuit durant. Les causeries sont animées de nos jours par une seule information, la démission du président de la transition Bandao et du premier ministre Mokhtar Ouad de leurs fonctions par le vice-président Assimi Goïta pour, dit-on, non-respect de la charte de la transition. La nouvelle fut donnée à la télévision nationale à mi-journée par le porte-parole du CNSP, commandant Baba Cissé. Tous les regards sont tournés maintenant vers la mission de la CEDEAO, dirigée par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. Ce dernier arrive à Bamako aujourd'hui, face à ce qui prend la forme d'un coup d'État. La réaction de la communauté internationale est très attendue, les heures qui viennent. La Missa Sangaré, Kati, VOA Afrique.
Les militaires ont fait arrêter hier le nouveau ministre de la Défense et de collaborateurs. Quelques heures à peine après la présentation d'un nouveau gouvernement, ils les ont fait conduire vers la garnison militaire de Kati, non loin de Bamako. Le médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, est attendu aujourd'hui à Bamako. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, revient sur les dernières 48 heures.
Les nombreuses condamnations de l'arrestation des deux dirigeants ont été suivies par l'annonce de l'arrivée du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, pour tenter de trouver une solution. Mais avant qu'une foule le sol malien, un communiqué du vice-président de la transition, Assimi Goïta, lu par son conseiller, le commandant Baba Cissé, sur les antennes de l'ORTM, a mis fin aux fonctions de Bandao et de Mokhtar Ouad.
Le vice-président de la transition s'est vu dans l'obligation d'agir pour préserver la charte de transition et de défendre la République en vue de mettre hors de leurs prérogatives le président et son premier ministre, ainsi que toutes les personnes impliquées dans la situation.
Pour l'observateur de la scène politique et analyste Mahamadou Kane, il ne s'agit ni plus ni moins qu'un coup d'État.
Oui, à l'analyse du communiqué du vice-président de transition Assimi Goïta, c'est clairement un coup d'État militaire qui vient d'être consommé au Mali. Lorsque Assimi Goïta dit dans les communiqués « nous avons décidé d'agir et de mettre hors de leurs prérogatives le président de transition et le premier ministre », je crois que c'est clairement un coup de force, un de plus au Mali.
Très tôt ce matin, un groupe de jeunes s'est retrouvé devant la bourse de travail pour manifester contre l'arrestation du président de la transition et de son premier ministre par les militaires. Bala Mariko, manifestant.
Là aujourd'hui pour dénoncer le nouveau coup de force des militaires suite à l'annonce de l'équipe gouvernementale hier. Donc nous dénonçons ce coup de force et nous exigeons la libération de Bandao de Mokarouane.
Cette mobilisation, qui n'avait pas été autorisée, a été très vite interrompue par les forces de l'ordre. Mais pour Adam Diko, qui est l'une des premières personnes à avoir appelé sur les réseaux sociaux à se mobiliser, il est inconcevable que les forces étrangères soient au front pour combattre et les forces armées maliennes à Bamako pour se battre pour des postes de responsabilité.
Ils ne pouvaient pas comprendre que les autres forces étrangères soient à Bamako et au Mali pour nous aider, pour aider les Maliens à libérer le Mali, à chercher les djihadistes, pendant que nous, nos militaires, sont à Bamako en train de se battre pour des postes ministériels. Nous dénonçons ce coup de force.
Si le premier vice-président de la transition reproche aux dirigeants leur démarche solitaire et le non-respect de la charte de la transition, pour Mahamadou Kane, le fait que les colonels Sadio Camara et Modibo Kone, anciennement ministre de la Défense et de la Sécurité et homme fort de l'ex-CNSP, le Conseil national pour le salut du peuple, ne figure pas dans la liste du gouvernement Mokhtar Wande, explique ce coup de force. En attendant de savoir qui va remplacer Bandao et Mokhtar Wande, le colonel Assimi Goïta assure que les élections auront lieu, je cite, courant 2022. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
La MINUSMA, l'Union africaine, la France et les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et l'Union européenne rejettent tout fait accompli, y compris une éventuelle démission forcée des dirigeants arrêtés. Un coup d'État inacceptable, les dirigeants européens ont condamné avec la plus grande fermeté l'arrestation du président du Mali et de son premier ministre. La France a demandé une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU. Nous sommes prêts, dans les prochaines heures, si la situation n'était pas clarifiée, à prendre des sanctions ciblées contre les protagonistes, a affirmé Emmanuel Macron. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi au calme, au Mali et à la libération inconditionnelle de messieurs Ndao et Ouane. Pour analyse de cette nouvelle crise qui agite le sommet de l'État malien, Yacouba Ouédraogo a joint sur place à Bamako Dr Ali Tunkara, analyste politique.
Beaucoup voient dans cette arrestation la mise à l'écart d'une partie de l'ex-junte militaire, notamment le ministre de Défense des Anciens Combattants et celui également de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Ces détenants du août d'août 2020, effectivement, se sont vus écartés de l'étalage gouvernemental qui nous a été proposé hier. Avant ces remaniements, beaucoup de Maliens voyaient déjà qu'entre les militaires anciens putschistes et les autorités de la transition, notamment civile, ne s'accordaient pas sur un nombre important d'éléments, notamment tout ce qui est nomination et tout ce qui est justement calendrier électoral.
Un communiqué lu aujourd'hui à la télévision nationale par ceux qui ont arrêté le président et le premier ministre parle d'une violation de la charte de la transition par ces deux autorités. Qu'en est-il?
Il me paraît pas du tout pertinent de brandir l'arsenal juridique dans le contexte malien. Je pense que les autorités militaires ont certainement un autre agenda, lequel agenda malheureusement ne serait pas compatible à celui détenu par le président Bandao et son premier ministre.
De quel agenda vous parlez?
Le communiqué auquel faites-vous allusion a prévu la tenue des élections dans le calendrier indiqué, mais tout laisse entendre que ce calendrier proposé par le Premier ministre ne serait pas forcément l'avis de nombre important des officiers militaires. Donc la tenue des élections dans le 18 mois imparti serait quelque chose d'extrêmement difficile quand on sait qu'aujourd'hui, les différentes réformes engagées par ces pouvoirs de transition, que ce soit les réformes institutionnelles ou voire administratives, sont des réformes certes importantes pour le contexte malien, mais qui n'ont aucunement associé la classe politique et même la société civile. Donc, de ce fait, le respect du calendrier proposé est tout à fait impossible au regard de la non-inclusivité de ces pouvoirs de transition.
Le Premier ministre et le Président sont aux arrêts. Est-ce qu'on pourrait parler de coup d'État?
Le qualificatif est extrêmement difficile, mais une chose est sûre. Et qu'il y ait coup d'État ou qu'il y ait coup de force, l'ordre établi à la suite du départ forcé du président Keïta, cet ordre est aujourd'hui ébranlé, cet ordre est aujourd'hui clairement rompu.
Docteur Ali Tunkara, joint à Bamako. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez John Lindon pour la Minute Éco.
En République démocratique du Congo, le Conseil d'État a donné son feu vert à la Banque centrale du Congo pour la mise en œuvre du processus de liquidation de la Banque internationale pour l'Afrique au Congo. Cette liquidation forcée intervient après plusieurs tentatives de sauvetage et de recherches infructueuses d'un repreneur. La Côte d'Ivoire veut conquérir le juteux marché américain de la noix de cajou en quintuplant d'ici 2025 sa capacité de décortiquage et en se mettant aux normes internationales. Le leader mondial de la noix de cajou ne transforme que 10% de sa récolte. Selon Adama Koulibaly, directeur du conseil coton en Acard, le pays a transformé en 2020 seulement 12% des 848 000 tonnes de sa production. Les banques de développement des gouvernements américains et néerlandais annoncent la mise en place d'une facilité de cofinancement aux entreprises et des pays en développement, surtout aux entreprises dirigées par des femmes. Avec une enveloppe de 75 millions de dollars, ce mécanisme sera engagé dans des États fragiles et à faible revenu sous forme de prêts aux entreprises.
Sans transition, nous passons à votre page des sports. Ce soir, Yakuba Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir à tous. On connaît les affiches des quarts de finale de la Basketball Africa League qui se dispute à Kigali au Rwanda. Pas de match ce mardi. Les rencontres débutent demain mercredi. Les redoutables Égyptiens du Zamalek, 3 matchs, 3 victoires en phase de poule, feront face aux Camerounais de FAP repêchés en tant que meilleur troisième. Puis place au choc entre les Marocains de l'AS Salé et les Angolais de Petro de Luanda, invaincus lors du premier tour. Jeudi, mission compliquée pour les Sénégalais de l'AS Douane, eux aussi repêchés comme meilleur troisième devant l'US Monastir de la Tunisie. Juste après, les Mozambicains de Ferroviaro de Maputo feront face aux hôtes rwandais de Patriotes. Les deux demi-finales se joueront samedi 29 mai et la finale le dimanche 30 mai. Justement, la NBA vient de lancer une entité pour coordonner ses activités en Afrique. Elle annonce la création de la NBA Africa, un organe chargé de gérer ses activités en Afrique selon un communiqué. C'est aussi la NBA Africa qui s'occupera désormais de la Basketball Africa League, le tournoi dont la première saison se déroule depuis le 16 mai à Kigali au Rwanda, je le disais. D'après ses promoteurs, la NBA Africa est le fruit d'un partenariat stratégique qui implique des investisseurs individuels, parmi lesquels on compte l'homme d'affaires nigérien, Babatunde Folayiwo. Selon la NBA, l'objectif est de promouvoir la croissance du basket en Afrique. Dikembe Mutombo, ancienne gloire de la NBA, originaire de la République démocratique du Congo, fait partie du lot des investisseurs de ce projet. Ici, en NBA, les playoffs se poursuivent. Bagassi Koura.
Oui, Milwaukee, plus agressif, a écrasé Miami 132 à 98 pour mener 2-0 dans leur série du premier tour. Les Bucks se sont notamment appuyés sur une adresse insolente à 3 points. 15 paniers à 3 points réussis sur 29 tentés. C'est un record de franchise en prime. Le grec d'origine nigériane Gianni Antetokounmpo n'a eu aucun mal à faire parler sa puissance. 31 points, 13 rebonds, 6 passes, 2 interceptions. Dans l'autre rencontre, Denver a égalisé à une victoire partout contre Portland en s'imposant avec autorité sur son parquet 128 à 109 dans le sillage de Nikola Jokic. 38 points, 8 rebonds, 5 passes. Cette démonstration collective des Nuggets contraste avec la performance en solo de Damien Lillard de Portland, auteur tout de même de 42 points et 10 passes.
Bagassi Koura, merci.
Merci Yakuba pour les sports. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manrakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Ce 25 mai 2021 est l'anniversaire de l'organisation de l'unité africaine créée en 1963, 58 ans plus tard. Que peut-on retenir de cette date devenue la journée de l'Afrique? Nous avons joint Karine Kaneza-Nantoulia, directrice de Human Rights Watch, chargée de plaidoyer pour l'Afrique.
58 ans plus tard, ce qu'on retient de l'organisation de l'Union africaine, c'est qu'elle est toujours sur la même vision qu'elle avait en 1963, lorsque 32 États ont signé une charte qu'on appelle maintenant la charte africaine. Et il faut se rappeler que 30 États étaient indépendants à l'époque. Maintenant, nous en avons 55. C'est la même vision, donc une Afrique prospère pour tous, une Afrique qui se développe, une Afrique qui prend sa destinée, son destin en main. C'est la même vision 58 ans plus tard.
Et quelle est la signification de cette journée aujourd'hui?
Comme chaque année, c'est une opportunité. Donc cette journée offre une opportunité aux Africains de se rappeler qu'effectivement, il y a 58 ans, un tout petit peu plus que la moitié du nombre des États africains d'aujourd'hui étaient indépendantes. Il y avait des États encore qui n'étaient pas indépendants. L'Afrique du Sud, qui est un pays important au niveau continental et au niveau international, vivait encore sous le joug de l'apartheid. C'est aussi une journée qui offre l'opportunité de revenir sur certains des progrès réalisés, mais aussi sur les défis qui restent.
Et quels sont ces défis, effectivement?
Les défis sont multiples, mais les plus importants, c'est vraiment les conflits identitaires, les conflits communaux, la guerre contre le terrorisme et les abus qui vont avec, les élections qui sont présentent une contestation qui devient un champ de contestation important. C'est le droit au développement. Ce sont les droits socio-économiques qui ne sont pas encore réalisés. Je pense qu'il est important de rappeler que la pandémie de la COVID-19, encore une fois, a été un défi assez particulier dans le sens où elle a exposé, donc la pandémie a exposé les fragilités socio-économiques qui existent au sein du continent. Aujourd'hui, nous avons des leaders africains qui présentent le même discours que le colon il y a des dizaines et des centaines d'années.
Karine Kaneza-Nantoulia, directrice de Human Rights Watch, chargée de plaidoyer pour l'Afrique. Dans l'est de la RDC, l'éruption du volcan Nyiragongo de samedi dernier a fait au moins 32 morts. Selon les autorités locales, entre 900 à 2500 habitations ont été détruites par les coulées de lave. De fortes secousses sont ressenties à Goma et au Rwanda. Eddy Isango, adjoint à Goma, le chef adjoint de la délégation du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, Raphaël Thénon.
La coulée de lave qui a détruit au moins 900 habitations, si ce n'est plus, s'est arrêtée, mais cette destruction, évidemment, pèse très lourd dans les conséquences humanitaires de cette crise. Le CICR est engagé sur le terrain auprès des populations pour déterminer quelles sont les actions qu'il peut continuer de prendre. Nous avons déjà commencé à nous occuper de réunir certaines familles en collaboration avec la Croix-Rouge congolaise et commencer à faire des projets pour réhabiliter une station de pompage qui pourra, on l'espère, redonner de l'eau à une grande partie de la vie qui en est actuellement privée. Et nous continuons d'appuyer les centres de santé avec des médicaments et des soins chirurgicaux, de l'eau et de l'électricité pour les bâtiments. La situation des déplacés reste un problème en suspens. Beaucoup de gens sont toujours en déplacement du côté de Sake, à l'ouest de la ville. D'autres gens sont revenus pour trouver leur maison complètement détruite et ils regardent souvent la coulée de lave avec les yeux hagards et l'air désemparé. Et nous essayons de répondre à leurs besoins qui vont être les besoins en abri, en nourriture, en biens essentiels celle des ménages, également en eau et en sanitation. Le problème principal reste le problème de l'eau potable et de la situation de ces déplacés. Un problème qui peut devenir un problème majeur dans les prochains jours si la route reste coupée, c'est le problème de l'alimentation en biens et en nourriture de la ville de Goma. Les secousses sismiques continuent de retentir et de faire trembler toute la ville avec une fréquence et une intensité accrue. Et nous vivons, nous, au Comité international de la Croix-Rouge, comme la population, dans la crainte des secousses sismiques et de leurs conséquences. Nous dormons dehors pour ne pas risquer d'être blessés ou tués par des éboulements de maisons ou d'immeubles. Et nous essayons quand même de répondre tant que faire se peut aux besoins de la population.
Beaucoup de gens meurent des inhalations. On a vu que même le gouvernement a relevé les nombres de morts à 31 hier. Aujourd'hui, où en est-on?
Aujourd'hui, le bilan est évidemment provisoire, car dans une catastrophe comme celle-ci, c'est très difficile d'établir un bilan humanitaire précis. La lave a détruit beaucoup d'habitations et potentiellement touché des populations dont nous ignorons encore le sort. Les inhalations ont commencé à faire des victimes. Ce qui est important, c'est la prévention et la prise en charge. Le Comité international de la Croix-Rouge travaille main dans la main avec la Croix-Rouge congolaise pour prévenir les communautés, au sein des communautés, et pour appuyer également les centres de santé qui prennent en charge les malades.
Et qu'en est-il de gens qui ont perdu de maison?
Nous sommes en train, de façon conjointe, d'établir un programme pour les aider avec des abris d'urgence. Le programme n'a pas encore commencé, mais nous allons le commencer. Les familles qui ont perdu les liens avec leurs membres de famille peuvent se diriger vers le CICR ou vers la Croix-Rouge congolaise et appeler également la ligne qui a été établie pour justement les cas de recherche de parents et des recherches d'enfants.
Raphaël Teno, chef adjoint de la délégation du CICR à Goma.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, l'éruption soudaine du Nyiragongo et la gestion des catastrophes naturelles en Afrique. Après un sommet de près de 20 ans, le volcan qui surplombe l'agglomération de Goma et le lac Kivu a craché sa lave sur la ville et provoqué plusieurs secousses sismiques causant des morts, d'importants dégâts matériels et une énorme psychose auprès de la population. Cette éruption du volcan Nyiragongo était-elle prévisible? Les gouvernements en Afrique consacrent-ils assez de moyens à la surveillance, la prévention et la gestion des catastrophes? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
Joe Biden reçoit ce mardi la famille de George Floyd qui a été tué sous le genou d'un policier blanc à Minneapolis, il y a un an, jour pour jour. La police est l'objet de critiques continues aux États-Unis. Et jusque-là, le président américain n'a pas réussi, comme il espérait, à faire voter un texte contre les violences policières. Arzuma Compaoré, adjointe dans le Maryland, Kadiatou Diallo, dont le fils Amadou Diallo, un jeune Guinéen de 23 ans, a été tué par des policiers en 1999 à New York.
Quand Amadou a été abattu, j'ai fait cette traversée de l'Afrique et je suis venue aux États-Unis. Et j'ai décidé de rester et de militer. D'abord, mon combat au début, c'était de rendre à mon fils son histoire. De la manière dont la presse était en train de parler de lui, ça m'a révolté. Donc, j'ai tout fait pour passer ce message parce que c'était un jeune étudiant qui est venu ici à New York City et qui travaillait fort et qui économisait son argent. Il voulait être indépendant et payer ses études universitaires. Donc, j'ai réussi à le faire. Malheureusement, pendant le procès, on n'a pas eu justice. Mais j'étais encouragée par le mouvement de tout le monde parce que ça a galvanisé tout le monde pour demander un changement. Aujourd'hui, quand il y a un incident, justement, les gens sont équipés par leurs petits appareils et ils documentent et ils montrent tout le monde entier ce qui s'est passé. J'ai dit que Amadou, c'est le catalyste de ce mouvement, mais George Floyd a vraiment ouvert la porte large pour changer le monde. Mais ce gap-là, entre Amadou et George Floyd, qu'est-ce qui s'est passé? Des milliers et des milliers de personnes ont été abattues. Ça fait 22 ans, 23 ans bientôt, et je continue de voir la même chose. À chaque fois qu'il y a une tragédie, qu'il y a une bavure policière, ça ouvre mes plaies. Donc, c'était cette blessure qui ne cicatrise jamais. On est fatigué, on est stressé, et il faut que ça change.
Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du président Joe Biden?
En tant que maire de Amadou Diallo et la fondatrice de la Fondation Amadou Diallo, nous attendons à ce que cette loi qui est en train d'être débattue au Congrès, que ça soit une loi forte. Nous demandons à ce qu'on élimine le qualify immunity, je ne sais pas comment le dire en français, parce qu'à chaque fois qu'il y a un policier qui abat un innocent ou une innocente, il y a cette couverture qui les protège. Donc ça, nous demandons à ce que ça soit inclus dans cette loi qu'ils sont en train de faire passer. Nous, les parents et les militants, nous jouons nos rôles tout le temps. Il faut que tous les acteurs dans ce mouvement-là soient unis et que ça prospère. Sinon, nous allons continuer de voir la même chose. Sans pression, rien ne va changer. Et cette pression, ça doit être sur le plan politique et sur le plan économique, justement.
Kadiatou Diallo, joint dans le Maryland.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
On connaît les écureuils du Bénin en football, mais pas vraiment en basketball, parce que contrairement au sport roi, le basketball est une discipline qui cherche toujours ses marques dans ce pays. Quelle est la situation de la balle au panier au Bénin? La réponse avec Élisée Onpatine à Boycon au Bénin.
10 équipes masculines et 2 clubs féminins pour une saison en 2 temps. Une première phase zonale avant des playoffs pour désigner les champions. Voilà l'essentiel de la toute première saison de Ligue Pro de basketball lancée au Bénin. Abdoul Gani Bakari, président du comité de gestion de la Ligue professionnelle de basketball, nous parle de cet important virage pris par la fédération.
Nous avons démarré ce championnat avec 10 équipes qui réparties en 2 zones. C'était un grand challenge, un grand défi que la fédération et son bureau ont décidé de relever. Je peux vous dire, après la première phase, que nous sommes satisfaits de la prestation, de l'engagement des équipes et du niveau de jeu que les différentes équipes nous ont livré à travers des matchs aussi bien chez les hommes que chez les dames.
Le basketball au Bénin a connu une réelle existence au lendemain des indépendances. L'histoire de cette discipline est jonchée de faits d'armes légendaires, ce qui a amené le changement à l'aide du professionnalisme proposé par le gouvernement. Ismaël Onifari, président de la Fédération béninoise de basketball.
Les moyens pour organiser les différents championnats, c'est-à-dire le championnat professionnel, le championnat amateur et également l'ensemble des autres activités de la fédération béninoise de basketball, ces moyens-là sont à notre disposition. Et c'est en 2 volets. Il y a d'abord la subvention que nous recevons du gouvernement. Le deuxième volet, c'est la TDS, c'est-à-dire la taxe sur le développement du sport.
Le Bénin a été pendant longtemps un pays majeur dans l'organisation des compétitions internationales. D'ailleurs, le dernier tournoi international organisé à Cotonou était la phase zonale des éliminatoires de la Basket Africa League. Aujourd'hui, le pays a des ambassadeurs de choix pour son basketball. Isabelle Yakoubou, ancienne internationale française, ou Mouftaou Yarou, passée par les universités américaines et le haut niveau européen, et la star NBA Yann Miami, champion avec Dallas, organise des camps pour booster la relève. Un projet d'une grande importance qu'il faut saluer, selon le président de la Fédération béninoise de basketball.
Nous sommes en étroite relation avec cette diaspora. Nous travaillons avec eux et nous leur apportons le minimum d'assurance et d'ouverture d'esprit et également de franche collaboration qu'il faut pour qu'ils se rassurent et qu'ils puissent apporter de leurs compétences, leur image et également les moyens qu'il faut également pour pouvoir accompagner le basketball national. Et franchement, ici, c'est l'occasion de les remercier pour tout ce que nous avons obtenu. Il y a des jeunes joueurs qui ont pu avoir accès à des écoles de basketball, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France. Et nous avons déjà réussi ce projet-là, et particulièrement avec Yann et Miami, que je remercie au passage ici. Donc ça va au-delà même du basketball, ça englobe l'ensemble du développement des jeunes et béninois, et évidemment à travers le basketball.
Le travail va se poursuivre en vue de résultats probants dans les années à venir. Pour le moment, c'est autrement que le basketball béninois brille à l'international, avec surtout son arbitrage reconnu et respecté. La dernière preuve est la présence du jeune arbitre béninois Sylvain Jacques Mbeji à la première édition de la Basket Africa League à Kigali au Rwanda. Boycon, Élisée Mbati, VOA Afrique.
c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Eric Comandelakiz a été à la présentation. Ici, pas vraiment d'aujourd'hui. Pour plus d'informations 24h sur 24, restez branchés sur voaafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.